France Inter, le 18-20.
Le 7 mai 2017, il avait soigné son entrée, Emmanuel Macron, le pas solennel et l'hymne à la joie devant la pyramide du Louvre, des petits drapeaux européens partout. L'an 1, pour voir et sur les chapeaux de roue. L'an 2, chaotique pour le moins, l'élan brisé sur l'affaire Benalla et sur les gilets jaunes aussi, rien ne sera plus comme avant. Le grand débat n'a pas permis de tourner une page, c'était pourtant le pari, les chiffres de popularité dégringolent, ça devient plutôt compliqué. Anus horribilis, comme on dit chez les reines, qui pourrait bien s'achever dans 3 semaines sur une défaite aux européennes. Une défaite s'est passée derrière le Rassemblement national quand le président et son premier ministre surtout sont à la manœuvre pour sauver le soldat l'oiseau empêtré dans sa campagne. Hier et dans le même temps, syndicats et élus sont revenus autour de la table pour parler emploi et aussi environnement. Les corps intermédiaires qu'on avait accusés de ralentir la machine à réformer sont donc de retour. Mais pourquoi faire? Y a-t-il un changement de méthode en vue pour passer au-dessus de la crise et au-dessus du chaos aussi à l'avant-veille, soit dit en passant, d'une journée d'action et de grève des fonctionnaires? Bref, la saison 3 s'annonce-t-elle déjà difficile? Eh bien, on en parle ensemble et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Marc, bonsoir. Vous êtes dans les Yvelines et soyez le bienvenu.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors,
Marc.
J'ai plutôt une réflexion qu'une question, c'est-à-dire que j'ai très attentivement écouté M. Philippe. Les réponses qu'il apporte ne me semblent pas du tout répondre à ce qu'ont réclamé les Gilets jaunes. Et donc, on a l'impression que ce sont deux trains qui se croisent dans les sens opposés. Parce que je peux vous rappeler quelques-unes des revendications. Donc, les Gilets jaunes demandaient qu'il y ait zéro SDF, qu'il y ait un plan urgent pour loger les gens qui sont dans la rue. Ils demandaient le SMIC à 1300 euros. Ils demandaient un référendum populaire qui devait rentrer dans la Constitution. Donc, ils demandaient la fin des indemnités présidentielles à vie. Il demandait l'augmentation des moyens du fisc pour la répression des fraudes et évasion fiscale, la suppression de la Cour de la justice de la République. J'arrête.
Oui.
Bon, il y a eu les handicapés, il y a eu les personnes âgées, il y a eu la fin des taxes sur le carburant.
Mais on a bien compris, Marc, qu'il y avait une inadéquation entre ce que vous cherchiez et ce qu'il a dit.
Il n'a rien dit là-dessus. Il n'a rien dit. Monsieur Macron a répondu uniquement que le référendum, il ne le sentait pas. Donc, il n'allait pas le faire. C'est la seule réponse que nous avons eue aux revendications des Gilets jaunes.
Merci beaucoup, Marc, pour cette entrée en matière, parce qu'elle nous permettra d'avancer dans ce débat pour répondre à vos questions, vos interrogations et aussi vos remarques. Jérôme Fourquet est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur du département Opinion de l'IFOP. Vous avez écrit L'Archipel français cette année, publié au Seuil. Bonsoir, Roland Cayrol.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche associé au CEVIPOF. Votre dernier ouvrage s'appelle Le Président sur la corde raide, précisément publié chez Calman Lévy. Et puis bonsoir, Yael Gauze.
Bonsoir, Fabienne.
Chef du service politique de France Inter. Je vais commencer avec tous à la fois. En fait, Jérôme Fourquet, ce que nous explique Marc, effectivement, mais c'est un peu ce qu'on sent aussi depuis ces derniers temps. Il y a eu deux interventions fortes, en fait, du président, l'une à Noël, l'autre après. Il y a une grosse addition, au fond, en milliards. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, c'est le cas de Marc, qui ne se retrouvent absolument pas dans ces réponses-là, en fait.
Alors oui, effectivement, mais il était illusoire de penser que tous les Français allaient se retrouver dans...
C'était aussi ça la difficulté.
La difficulté, le président l'avait bien rappelé en disant « je vais pas pouvoir satisfaire tout le monde parce que j'ai eu 60 millions, 65 millions de questions qui me sont parvenues ». Boutade à part, je pense que la volonté présidentielle était de répondre à une partie de la population et pas spécifiquement aux gilets jaunes. Et c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de revendications auxquelles des réponses ont été apportées. Vous faisiez référence aux annonces du mois de décembre. Mmh. Il y en a eu d'autres cette fois-ci, mais l'idée, c'était pas de cocher toutes les cases. En tout cas, c'était pas ça qui était dans l'esprit du gouvernement. Cela étant, on peut constater que un certain nombre de thématiques qui ont émergé dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes, je pense par exemple à la question du non-paiement des pensions alimentaires, à la question de l'évasion fiscale. Là-dessus, le gouvernement a décidé d'avancer. Alors, d'aucuns peuvent considérer que le compte n'y est pas et que le gouvernement fait la sourde oreille. Mais encore une fois, le gouvernement et Emmanuel Macron a d'abord en tête le souci de répondre à son électorat, rassurer son électorat, tracer un cap et autant que faire se peut, parler à une partie des Français, mais pas forcément répondre point par point au cahier des charges émis par les Gilets jaunes.
Roland Quirol, est-ce qu'on flotte malgré tout en fait ? Parce que c'est un peu ça peut-être aussi le sentiment de notre auditeur et d'autres d'ailleurs au 01 45 24 7000. Est-ce qu'on flotte ? Je pense par exemple à la réunion qui a eu lieu hier avec les corps intermédiaires, comme si ils redemandaient leur avis parce que tout seul, ils pataugent un peu ce président en fait. Est-ce qu'il y a ce sentiment-là ?
Il y a eu très évidemment des hésitations présidentielles. Le coup réussi, ça a été d'inventer le grand débat, qui avait précisément pour objet de ne plus faire un face-à-face avec les militants des Gilets jaunes, de leur substituer la population française, et donc de faire le transfert que vient de signaler Jérôme Fourquet. Ça, c'est pas mal fait, et dans les mesures qu'il prend, il y a de tout. Il y a y compris beaucoup de choses qui étaient dans les revendications des Gilets jaunes. Jérôme en a cité deux. Il y a aussi tout ce qui concerne les retraités, qui était très important dans les demandes des Gilets jaunes et qui ont été quand même largement satisfaites, à la fois pour la CSG et pour la réindexation. Donc il y a des choses. Mais on savait bien que ceux qui étaient fondamentalement Gilets jaunes, j'allais dire, on aurait pu leur offrir la lune s'ils l'avaient demandé, ils auraient dit ça ne nous suffit pas. Ils sont entrés dans une confrontation avec le président de la République, pour qui ils conçoivent une véritable haine pour beaucoup d'entre eux et qu'ils expriment très fortement. Donc voilà, il n'y a pas de possibilité de les satisfaire. Le problème est de savoir s'il y a suffisamment de Français. Je dirais non, pas à 50%, parce qu'on n'arrive jamais de nos jours à satisfaire 50% de Français, mais quelque chose de très au-dessus de la base électorale des 24% de Macron à la présidentielle, qui peuvent se dire « Ah, quand même, il y a un effort, je l'enregistre, c'est pas si mal ».
Mais est-ce qu'on le sait ça ou pas ? Est-ce que vraiment le grand débat a stoppé cette crise-là ?
Non, bien sûr, elle l'a pas stoppé, parce que d'une part, les Gilets jaunes, ça va continuer. Moi, je pense jusqu'en 2048, il y aura tous les samedis des Gilets jaunes dans la rue. Et que les Français vont pas se mettre à se dire « Tiens, on est heureux, on est content, on gagne assez bien notre vie, l'essence est devenue pas chère et la vie est belle ». Évidemment, un pouvoir doit s'affronter au mécontentement permanent du public. Je remarque quand même que si j'en crois les sondages, les différentes mesures de la conférence de presse ont été très largement approuvées et qu'il y a tout de même quoi autour de 35% de Français qui se disent que c'était plutôt convaincant. 35, c'est mieux que 24. Et je crois que quand on est président dans ces temps troublés, il faut y aller doucement en essayant de récupérer petit à petit telle ou telle couche de la population et qu'il fait mieux, Macron, que ce que font maintenant ses amis de La République En Marche.
Le problème, c'est le temps d'infusion des mesures. Évidemment, tout a été dit en 2h30 le 25 avril. Et puis après, on passe à autre chose. L'actualité va, vient. Il va falloir pour le gouvernement, et c'est ce qu'a fait Édouard Philippe.
On passe à autre chose, et puis il y a eu la salpêtrière, et puis il y a des choses comme ça qui redonne des coups.
D'ailleurs, vous avez eu un bis repetita, une rediffusion, Édouard Philippe, à la mi-journée, après le Conseil des ministres, qui redit les mesures pouvoir d'achat. Il l'avait dit vendredi en déplacement à Angoulême, mais masqué par l'épisode de la pitié salpêtrière. Donc forcément, et la polémique avec Christophe Castaner. Donc il y a un phénomène de répétition, d'infusion, avec, j'ai envie de dire, des choses qu'on va voir plus tard. Au mois de juin, vous allez avoir un temps très fort qui est le temps de la Convention citoyenne au sein du comité du Conseil économique, social et environnemental, où là on va faire participer les citoyens pour décider de la transition écologique. C'est quelque chose qui paraît complètement abstrait pour l'instant, totalement insaisissable, mais c'est des choses qui vont être perlées dans les mois qui viennent. La difficulté pour le gouvernement, dans la réponse aux Gilets jaunes et au-delà, c'est de faire comprendre que ça va se dérouler sur plusieurs mois, alors que le teasing, la bande-annonce qu'on a eu avant, c'était maintenant, tout de suite, on renverse la table.
Mais justement, Jérôme Fourquet, est-ce qu'il est... parce que quand on écoute le discours, effectivement, il est droit dans ses bottes, on continue, etc. Mais est-ce qu'il est sur la défensive réellement ce président aujourd'hui ? Dans ses hésitations notamment, y compris à intervenir au plus fort des crises récentes, est-ce qu'il est dans cet esprit de défensive en ce moment ?
Alors je pense en partie, parce que comme disait Roland Quirol, il regarde sa cote de popularité, mais également les intentions de vote pour les prochaines élections européennes, dont il a fait il a fait un grand enjeu de l'évaluation de son action, avec le mano à mano qu'il a organisé vis-à-vis du Rassemblement National. Et donc il voit aujourd'hui que les deux listes sont au coude à coude. Donc bien évidemment, ça crée sans doute du trouble. Moi, je constate aussi que nous avons eu des annonces et des prises de position très fortes du président de la République sur la question environnementale, et qui, de mon point de vue, était totalement absent ou très peu traité lors de la restitution du grand débat. Alors qu'on aurait pu penser que là, on avait une planche de salut pour Emmanuel Macron, en disant voilà, le progressisme c'est ça, voilà le grand chemin que je vous propose, c'est la transition écologique pour tous. on va y aller tous ensemble et on va recréer de la cohésion. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, on a des espèces de d'atermoiement, de stop and go, de la question environnementale qui revient par la fenêtre alors qu'elle était sortie. Donc, mais comme disait Roland Cayrol, on est quand même dans une situation qui est extrêmement compliquée et qui est très difficile à gérer et à endosser pour le président de la République. Donc, on peut comprendre ces flottements, ces hésitations.
Roland Cayrol, est-ce qu'il a eu tort, Emmanuel Macron, de mettre autant d'enjeux dans ces élections européennes dans lesquelles il se plonge là maintenant? Parce qu'effectivement, ça ne va pas bien du tout pour la liste de Nathalie Loiseau.
Ça, je le crois. Vous savez, nous ne savons pas bien dans ce pays comment prendre une élection européenne parce que c'est la seule élection à la proportionnelle. Et donc, tous les autres pays votent à la proportionnelle tout le temps, sauf nos amis britanniques. Et donc, vous ne verrez nulle part comme enjeu le fait d'être en tête. Ça n'existe pas. On regarde ce que font les différentes listes et on voit celles qui sont isolées, celles qui montent, celles qui baissent. Mais être en tête n'est pas un enjeu. Si vous avez 2 points d'avance sur une autre, vous avez le même nombre d'élus, vous pesez la même chose
mais
au Parlement européen.
Mais symboliquement aussi, quand même.
Alors, symboliquement, en France, les médias, ne sachant pas comment analyser les européennes, ont toujours dit on gagne les élections européennes quand on est en tête. Ce qui est d'autant plus absurde que les élections européennes ne changent jamais rien à la situation politique en France. On dit chaque fois, depuis 79, depuis les premières, on dit chaque fois, les cartes sont redistribuées, le comportement électoral a été totalement modifié. Et on s'aperçoit, à la prochaine élection, au scrutin majoritaire, que ça n'était pas vrai.
Mais Roland, donc, le thermomètre, c'est La République En Marche elle-même qui se l'est fixé.
C'est pour ça que je dis que celui qui a eu tort là-dedans, c'est Emmanuel Macron, de fixer lui-même cet enjeu.
Il a voulu le référendum, il l'a, en gros.
Référendum avec deux listes qui font toutes les deux autour de 20%, et dans un paysage dans lequel l'essentiel des Français n'ira pas voter. Curieux référendum. Mais c'est vrai qu'il s'est enfermé dans cette bataille, pensant probablement que c'était tout de même absurde d'imaginer que Marine Le Pen ou son tête de liste arriverait à faire plus que lui. Là, il a probablement pris un risque trop élevé par rapport à la situation.
Mais alors, cela dit, Yael Gauze, si en ce moment la liste européenne est plus à la peine qu'elle ne l'était, est-ce que c'est le mauvais casting de Nathalie Loiseau ou est-ce que c'est le climat social aujourd'hui en ce moment qui fait que la liste d'Emmanuel Macron est en train de baisser?
C'est extrêmement réducteur de limiter les difficultés actuellement du camp Macron à cause d'une tête de liste, d'un choix d'une tête de liste qui certes a commis, Nathalie Loiseau, des erreurs de communication répétées, mais elle est un peu le punching ball. Puisque La République En Marche veut arriver en tête, elle devient la cible, la poupée vaudou de toutes les oppositions en ce moment, coalisées, parce que vous avez aujourd'hui quasiment 32 listes contre une. Hein, si on résume la situation politique en ce moment de ces élections européennes, il y a un côté tous contre Macron, donc tous contre Nathalie Loiseau. D'ailleurs, c'est intéressant, dans le document de campagne qui va sortir, dans les affiches que vous verrez lundi dans les rues de vos villes et de vos villages, Nathalie Loiseau n'apparaît pas, c'est pas écrit dessus, c'est un pack de gens, des 8 premiers colistiers, dans lequel elle est noyée parmi d'autres, à côté de Pascal Canfin, à côté d'autres figures de La République En Marche, la liste Renaissance. Elle n'est plus effectivement mise en avant comme on aurait pu le penser au départ.
Mais d'ailleurs là, est-ce que c'est toujours elle qui fait campagne ou pas, Jérôme Fourquet?
C'est
Édouard Philippe qui désormais a pris la main.
Chef de la majorité, donc c'est Édouard Philippe qui fait campagne, effectivement, qui s'est substitué à sa locomotive qui est un petit peu poussive.
Allez, on retrouve Marc, décidément c'est un combo de Marc. Bonsoir Marc.
Bonsoir Fabien de Saint-Ès, bonsoir à vos invités pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et puis bonsoir à tous. Alors Fabienne Saint-Ès, vous avez parlé de saison 3 et j'approuve tout à fait cette appellation parce que j'estime qu'avec Emmanuel Macron, on est dans le théâtre depuis le début. Et rappelez-vous tous que Emmanuel Macron a épousé sa prof de théâtre, sa marque. Donc, depuis la marche dans la cour du Louvre jusqu'aux 60 heures de débat permanent devant les maires, Emmanuel Macron fait le show. Et je pense qu'il est au pouvoir pour lui, pour le grand destin dont il rêve en Europe et que dis-je dans le monde, pas tellement pour nous. Et donc, je n'attends rien de positif, ni de la saison 3, ni de la saison 4, ni de la saison 5, et j'ai été très déçu par la conclusion du grand débat. Il s'est excusé sur la forme, mais il n'a absolument pas remis en cause sa politique. On a acheté la paix sociale, On achète la paix sociale, quitte à vendre la France, quitte à vendre ADP à Vinci, comme on a vendu Alstom à General Electric, mais on ne fait absolument pas progresser la démocratie, et ça, c'est le point sur lequel je veux insister, c'est absolument urgent. Dans les débats auxquels j'ai participé à 3 réunions de grands débats, il a été question du pouvoir exagéré du président de la République qui fait de nous la risée de l'Europe, notamment de l'Allemagne. Bon, ils ne le disent pas publiquement, mais alors il est urgent en France qu'on ait une séparation très nette, très nette entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire, parce que si dans 3 ans la République tombe en de mauvaises mains, on n'aura que les yeux pour pleurer.
Merci beaucoup Marc. On m'avait prévenu, on m'avait dit attention Marc est bavard et vous le confirmez, mais merci beaucoup pour votre intervention dans le téléphone sonne. Il y a une chose que je retiens notamment Roland Cayrol dans ce que vient de nous dire Marc, c'est au fond pas de changement de politique sur le fond, il ne se passe rien. Or on a eu un peu le sentiment, mais vous allez m'arrêter si je me trompe, que cette fameuse réunion d'hier, encore une fois, qui ressemblait un petit peu aux réunions sociales à la François Hollande à l'époque, donner une espèce de manière de se ravibaucher, en fait, avec un certain nombre de gens et de corps intermédiaires qu'il avait mis de côté jusqu'à présent, dont il réalise quand même que, bah oui, c'est quand même très utile, les élus, les syndicats et d'autres.
Oui, moi je crois qu'il là-dessus, il est en train de manger son chapeau et de nous dire, voilà, Jupiter c'était bien, mais finalement, les corps intermédiaires, dont je vous rappelle que pendant toute sa campagne présidentielle, il avait fait l'éloge des territoires, des syndicats, etc., etc. Bon, il les redécouvre enfin, et je trouve que la réunion d'hier était, de ce point de vue, assez intéressante. Pour l'ensemble des participants, il n'y avait pas que les habitués des conférences sociales de Hollande, puisqu'il y avait aussi les représentants des territoires et les représentants du mouvement associatif. C'était quelque chose de beaucoup plus large. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait 2 choses assez intéressantes pour essayer de débloquer un peu les mécanismes de cette société décidément un peu bloquée. Un, c'est que on a décidé qu'on allait territorialiser les discussions. C'est-à-dire que on va parler de choses extrêmement concrètes sur la prime mobilité, sur la façon dont les femmes peuvent se débrouiller quand elles ont des problèmes de pension alimentaire, et on va le faire région par région, localité par localité. Dans ce vieux pays jacobin où tout vient toujours de Paris, c'est un signe qui est, à mon avis, très intéressant pour les gens des territoires. Et même chose pour les syndicats, on leur a dit, d'habitude on leur dit voilà la liste des choses dont il faut parler. Là on leur a dit voilà 5 sujets, mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et ils ont visiblement des propositions à faire, ils en ont tous, 43, 66, même la CGT qui n'a pas voulu venir hier, on sent qu'elle est intéressée d'aller proposer des choses concrètes. Et je trouve que de ce point de vue, cette volonté, non plus d'avoir une grande discussion sociale avec des déclarations des uns et des autres, mais que on essaye de sortir la boîte à outils. Comment on peut faire vraiment pour le pouvoir d'achat, pour le temps de travail, pour l'emploi, ça donne peut-être un peu d'espoir sur les discussions qui auront lieu désormais.
Mais est-ce que ça veut dire aussi, Jérôme Fourquet, que tout le monde est en train de courir derrière des gilets jaunes, au fond, de courir derrière un mouvement que personne n'a vu venir et que personne n'a su capter, pour le coup, ni les élus au moment des ronds-points, ni les syndicats aujourd'hui au moment des manifestations?
Alors, oui, en partie. Et ce derrière quoi aussi les syndicats courent, c'est leur légitimité. Puisque on a beaucoup entendu ces derniers mois, en quelques semaines, et avec de la casse, les gilets jaunes ont obtenu plus que vous pendant des décennies. Et donc c'est bien ça aussi dont il s'agit de reparler. Et donc il y a une espèce de, s'il vous plaît, de pacte qui peut se nouer entre les syndicats et Emmanuel Macron, en disant chacun a besoin de l'autre. Emmanuel Macron voit bien que pour débloquer, comme disait Roland Cayrol, le pays, il aura besoin, c'est mieux si on est plusieurs à tirer la charrue. Et de l'autre côté, les syndicats ont besoin d'être remis en scène, ou en selle, parce que sinon la base peut les déborder.
À commencer par Philippe Martinez qui a dit aujourd'hui également, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on a ratées, c'est vrai qu'on n'est pas avec les retraités, on n'est pas avec les femmes, on n'est pas dans les petites entreprises, on n'est pas dans les PME, on n'est pas dans ces endroits-là, donc il y a aussi, chacun est en train de réaliser quelle coche ils ont raté en fait.
Exactement, et on est dans une invention de quelque chose d'autre. La saison 3 dont vous parliez Fabienne, c'est on est passé donc de Jupiter vertical à l'horizontalité du grand débat, et maintenant il invente les corps intermédiaires élargis vous le disiez très bien, Roland, avec élus, associations, quelque chose de beaucoup plus nouveau, de plus élargi. Dans le livre d'Ismaël Emelien sur qu'est-ce que le macronisme, le progressisme, etc., il dit on doit passer aux associations intermédiaires. C'est un peu ça qu'il essaie d'inventer, avec un maître mot maintenant dans cette saison 3 qui est l'humilité, plus d'humain, plus d'humanité. Alors ça, ce sont les éléments de langage, hein, bien sûr, mais humilité.
Je voudrais vous soumettre cette question sur Twitter de Richie qui nous dit « Hollande a eu ses frondeurs, Macron a eu des gilets jaunes, il croyait dépasser le réel en proposant un nouveau monde, en balayant les partis, etc. Il aura donc le même sort que Hollande, un quinquennat agité et décrédibilisé. » Est-ce que d'une certaine façon, il n'a pas raison, Roland Kayrol, Richie, de faire une comparaison? Alors, comparaison n'est pas raison, on est d'accord, ce sont des choses très différentes, mais finalement, à chacun son type de frondeur, et ben, les siens, ce sont les gilets jaunes.
Ceux-là, ils sont quand même pires que des frondeurs à l'Assemblée. C'est quand même.
Ça fait plus de bruit.
Ça fait plus de bruit. Ça a plus de soutien dans l'opinion publique aussi, et ça compte beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a un problème. C'est vrai aussi que cette histoire du quinquennat forcément raté, et je ne sais pas, parce que en même temps, la situation politique, c'est une situation de concurrence. Aujourd'hui, il est pas bien dans l'opinion Macron, mais quand vous regardez la concurrence, elle n'est pas très bien non plus. Or, une élection présidentielle, qui est, comme disait l'autre, la clé de voûte de notre système, ça se joue entre les concurrents. Et pour le moment, de façon assez incroyable, ce Macron qui est rejeté volontiers par les gens qui, dès l'instant qu'ils voient un micro ou une caméra, en même temps, si on s'amuse à dire à faire l'hypothèse d'une nouvelle présidentielle, tac, il gagne. C'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement compliqué à appréhender pour tout le monde. C'est les jeux ne sont pas faits, rien n'est joué, et tout ce qui se fait en ce moment, c'est des cartes qui vont nous mener jusque encore pendant 3 ans.
Et le cap des 2 ans, il a été difficile pour tout le monde. On focalise là sur Emmanuel Macron, mais
sauf que le cap
des
2 ans,
97,
pardon de vous interrompre, c'est le cap du bilan. Normalement, c'est ce qu'il avait dit quand il a commencé, Emmanuel Macron. Le premier bilan, il avait dit 2 ans.
Mais comparé aux autres, aux prédécesseurs, Jacques Chirac, 38% de popularité en 97 après 2 ans. Nicolas Sarkozy, 32% après 2 ans de gouvernement en 2009. François Hollande, 18%. Lui est à 26%. Et quand on regarde un peu les différentes qualités encore attribuées à Emmanuel Macron, il y a la stature et la capacité à réformer. Ça reste encore 2 atouts, la proximité, la sympathie, ça c'est l'effondrement total, mais il reste encore ces 2 items où là il a un peu de force.
Allez Martine, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute Martine, bienvenue.
Alors moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire votre dernier invité. L'impopularité d'Emmanuel Macron, c'est exactement l'impopularité de François Hollande, comme il y a eu auparavant l'impopularité de Nicolas Sarkozy. On a l'impression que quoi qu'on fasse, c'est toujours mal. Qu'on applique son programme comme Emmanuel Macron, ben c'est mal. Et du coup, on n'a jamais le temps d'attendre que les réformes produisent des effets. Dès qu'au bout de 6 mois, c'est déjà trop tard. Du coup, on a un déferlement de haine. Et moi, je voudrais insister là-dessus. Je suis extrêmement inquiète pour la démocratie. Parce que le déferlement de haine qu'il y a actuellement contre Emmanuel Macron est hors de propos. Je suis étonnée, par exemple, qu'on ait tellement parlé de la Salpêtrière et qu'on n'ait pas un instant parlé de l'école du 13e arrondissement que les Gilets jaunes ont attaqué, par exemple. Et donc, je suis un tout petit peu étonnée qu'il y ait systématiquement ce déferlement de haine. Moi, je voudrais savoir comment vos invités réagissent par rapport à ce déferlement de haine. Et ce déferlement de haine, c'est ça qui indique que, effectivement, aux Européennes, ce qui risque de se passer, c'est qu'indépendamment de l'Europe, dont manifestement, et Laurent Wauquiez, et Raphaël Glucksmann, et Yannick Jadot, et tout le monde se moque, c'est effectivement voter avant tout contre Macron.
Merci beaucoup Martine. Alors, je ne me prononcerai pas sur cette école à laquelle vous avez fait allusion, parce que je regarde autour de la table, mais moi non plus, je ne sais pas de quoi il est question. Mais Roland Kayrol, pour répondre à Martine, on faisait la comparaison avec les taux de popularité, effectivement, qui s'effondrent tous à peu près au même moment. Est-ce que cependant l'image et le degré de haine, c'est un peu comme ça que le dit Martine, est pire aujourd'hui pour Emmanuel Macron? En tout cas, ça s'exprime différemment que ça s'exprimait pour François Hollande ou même pour Nicolas Sarkozy?
Oui, je crois qu'on... Là, c'est quelque chose qui appartient à l'ère du temps et qui n'est pas tout à fait spécial à la politique. C'est que d'aujourd'hui, on dit les choses d'une façon incroyablement cash, et que la façon dont un événement en enlève un autre, une personnalité en enlève une autre, et voilà, c'est un jeu de massacre permanent. Et si on fréquente les réseaux sociaux, on voit ça avec...
J'allais dire, on se parle comme niveau... sur les réseaux sociaux, au fond.
C'est exactement ça. Alors ça pose en effet problème. De la même façon que moi, j'ai été frappé du fait que on a toujours eu des luttes en France pour l'égalité. L'égalité sociale, l'égalité fiscale, l'équité, la justice. Là, ça s'est mêlé en même temps de mouvements de jalousie sociale. Pas de réclamation pour soi, mais que les autres aient moins. Que les indemnités des élus soient supprimées, qu'on remette des impôts sur les riches. Voilà. Il y a eu beaucoup moins de demandes spontanées pour défendre son propre beefsteak, ses propres conditions de travail, que pour dénoncer la situation faite aux autres. Et je trouve que ça, il y a un mélange, en effet, là, de rage, de jalousie, parfois de haine, qui, je crois, est malheureusement pas lié seulement à la politique. Demandez aux profs comment ça se passe dans leur classe, demandez aux entreprises comment ça se passe souvent dans les réunions internes. Voilà, on est dans une période qui est, de ce point de vue, sans doute pour ceux qui ont connu les précédentes et qui peuvent dire « Ah, c'était mieux avant », comme tous les vieux disent ça, mais il y a quelque chose d'un tout petit peu inquiétant dans notre façon même de faire de la politique et de faire une société.
Jérôme Fourquet, là-dessus?
Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, une des différences avec les quinquennats précédents, c'est qu'aujourd'hui, l'impopularité, elle ne se traduit pas uniquement dans les courbes des instituts de sondage, mais aussi sur les ronds-points. C'est la première fois que, hors mouvement social, comme disait Roland Carol, on n'en est pas là sur contester une réforme des retraites ou réforme de la SNCF, on est sur des gilets jaunes qui incarnent le mécontentement que les instituts mesurent et qui l'incarnent de manière viscérale, avec un certain nombre de propos qui ont été rappelés, et des gens qui, quoi que Emmanuel Macron fasse, aujourd'hui, veulent sa tête, quelque part, au sens figuré, certains peut-être pas que figuré, avec, là aussi, peut-être l'erreur qui a été commise par Emmanuel Macron, d'installer ce match avec le Rassemblement National, puisque il y a quelques jours, un de vos reporters était sur une manifestation des Gilets jaunes et demander aux Gilets jaunes est-ce qu'ils vont voter, ils allaient voter pour les listes Gilets jaunes, et beaucoup disaient non, on votera pour la liste qui fera le plus mal à Macron. Et donc on est bien là aujourd'hui sur...
Et les listes Gilets jaunes ne font pas de mal à Macron, bien au contraire d'ailleurs, statistiquement et électoralement parlant.
Donc on est là-dessus aujourd'hui.
Yael Gauz, et juste en un mot, j'ai une question subsidiaire pour vous. Oui. Qu'est-ce qui reste autour d'Emmanuel Macron aussi? Parce qu'on a l'impression que ça a été un peu... que le navire s'est beaucoup vidé, mais remplacé par qui, en fait, réellement? Il y a Jérôme Fourquet qui fait bon, pas vraiment.
Non, dans ses conseillers, beaucoup sont partis, mais regardez, il n'a pas eu trop de mal à constituer sa liste.
Ouais.
Et tout le monde a dit, c'est l'auberge espagnole. Alors, pour une européenne, c'est pas forcément très grave. Mais, blague à part, on voit des gens, quand même, Pascal Canfin, qui vient de WWF, des gens qui sont proches d'Alain Juppé. Donc, on voit que cette constitution d'un bloc central, agrégeant des gens venant de l'écologie, du MoDem, de la droite juppéiste et du Parti Socialiste, continue de fonctionner quand même plutôt bien.
Yael, pardon, je vous ai interrompu.
Non, c'était par rapport à l'auditrice qui nous appelait sur le côté « tout va trop vite, Martine. On n'arrive pas à suivre une politique dans sa mise en œuvre ». C'est le problème de notre rapport un peu infantilisé français à la politique qui serait forcément magique. C'est-à-dire au bout de 2 ans, on brûle aussi ce qui est censé avoir été un moment exceptionnel deux ans auparavant.
Nos voisins européens sont à peu près dans le même état.
Mais le problème, c'est comment gouverner quand la popularité est basse. Quand François Hollande se relance avec le virage de l'offre et change tout après 2 défaites successives municipales et européennes, et même Manuel Valls à la tête du gouvernement, c'est presque trop tard parce qu'il est déjà tellement bas qu'il a perdu le crédit et la crédibilité pour gouverner. Là, on a la normalisation d'un président qui était censé être disruptif au départ. Et c'est vrai que quand la magie n'opère plus, y compris au niveau européen, où son leadership a été fortement écorné après avoir fait rêver sur l'hymne à la joie il y a 2 ans.
La vraie conséquence d'ailleurs d'une place de numéro 2 au fond, de passer derrière le Rassemblement National, Roland Carreau, aux élections européennes, c'est aussi la place de la France en Europe, donc on joue là quand même. Et l'image qui était censée être celle d'un Emmanuel Macron qui allait emmener l'Europe vers autre chose, non?
Oui, ça dépend des résultats dans tous les pays d'Europe. S'il y a partout un mouvement comparable à celui qu'on voit en France, ça sera pas seulement la situation française qui sera regardée, c'est la montée éventuelle de la xénophobie ou des extrémismes en Europe. Mais c'est vrai, encore une fois, que c'est lui-même qui a accepté cette sanction, Macron, et qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que au fond, le fait qu'ils aient ou pas 2 ou 3 députés de plus l'un que l'autre ne changera pas grand-chose au sein du Parlement européen. Et je suis de ceux qui croient qu'il y aura quand même au sein du Parlement européen une fluidité d'alliances possibles plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Et que ça va être politiquement un Parlement extrêmement intéressant à suivre dans les années qui viennent.
Et tenez, il est tellement mobilisé Emmanuel Macron en ce moment dans cette campagne que selon nos confrères du Figaro, il est dans un restaurant parisien privatisé avec les colistiers de Nathalie Loiseau pour donner quelque part sa feuille de route et mobiliser les troupes. Vous voyez à quel point Emmanuel Macron entre en campagne et entre dans l'atmosphère de cette campagne.
Et avant de retourner au standard, tiens, je vous signale que Check News, le site de Libération, a déjà écrit que quelques black blocs sont entrés dans la fameuse école de la rue Fagon. C'est ce que disait notre auditrice tout à l'heure, donc c'est bien de vérifier immédiatement. C'est dans le 13e arrondissement. En cassant deux serrures, une chaise a été volée et ils sont repartis. Libé dément donc une attaque de l'école. Voilà, comme ça c'est dit. Bonsoir Nicolas. Nicolas.
Oui, bonsoir. Nicolas. Oui, bonsoir.
Pardon de vous déranger, Nicolas. On vous écoute, allez-y.
Non, pas de problème. Oui, donc, en fait, c'est un témoignage, c'est le constat ou une déception pour Emmanuel Macron, qui avait un capital d'espoir au changement très important au moment de son élection. Un capital qu'il a, à mon avis, dilapidé en ne prenant que des réformes technocratiques, sans souffle, à l'image de ses propositions sur l'écologie, qui ne sont qu'un écran de fumée, c'est mon avis, et bien en deçà en tout cas des enjeux réels. Et je trouve ça dommage de la part d'un jeune président qui répète des recettes du passé sans vision. On a l'impression qu'il passe à côté de l'histoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup Nicolas pour votre contribution. Dilapider son capital, Roland Kayrol, par rapport à ce qu'il était lorsqu'il est arrivé devant la pyramide du Louvre le 7 mai d'il y a 2 ans.
Je ne sais pas. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été extrêmement déçus par Emmanuel Macron. Tiens, je soupçonne Nicolas d'être dans ce cas-là, qui en fait n'ont jamais cru. Et que, vous savez, quand on dit aux gens, est-ce que vous êtes déçus, ça veut dire en fait, est-ce que vous n'y avez jamais cru. Voilà, je crois qu'il faut faire attention.
Mais on va lui demander à Nicolas, est-ce que vous y avez cru, Nicolas, sérieusement?
Non, je dis ça, il va forcément nous dire le contraire.
Non, allez-y.
J'ai voté pour M. Macron au deuxième tour et j'ai cru, effectivement.
Oui, au deuxième tour, ça ne...
Mais et vous faites partie, j'imagine, mais parce qu'il y a une autre question dans le même sens que la vôtre, de ceux qui forcément ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National, c'était la justification de votre vote, j'imagine, Nicolas.
Exactement, j'ai une orientation plus à gauche et c'est une deuxième raison de la déception, en plus de la faiblesse de ses dispositions sur l'écologie.
Merci beaucoup, merci Nicolas. Roland Kayrol, pardon, je vous ai interrompu. Effectivement, c'est l'archétype peut-être de l'électeur, en effet, mais peut-être que Emmanuel Macron n'a pas assez parlé à ces électeurs-là, au fond, au démarrage de son quinquennat, non ?
Écoutez, c'est probable. Cela dit, moi je suis assez frappé, parce je lis souvent des analyses selon lesquelles Emmanuel Macron aurait perdu son électeur de gauche originel. Vous vous rappelez qu'il avait fait ce miracle incroyable de faire 24%, dont 12 venaient de la gauche et 12 de la droite et du centre. C'était le en même temps rêvé. Ben, moi je trouve que quand on regarde le socle se maintient pas mal. Et y compris ceux qui à l'époque venaient de la gauche. Alors évidemment, quand on lit les sondages aujourd'hui, ceux qui sont à gauche, ça exclut la Macronie. C'est la République en marche. Et la République en marche, elle contient toujours, à 2 points près, les mêmes électeurs de gauche. Donc la déception, encore une fois, elle a surtout existé chez ceux qui étaient à l'avance déçus. Pour le moment, son truc incroyable et gauche et droite, ça tient pas si mal dans l'électorat. Et moi, je dirais que c'est pour ça que l'histoire n'est peut-être pas terminée.
Je mettrai une nuance. Je suis pas tout à fait d'accord avec
Allez-y,
ça. Ça craque un peu à droite, justement. Il se passe. Alors, il y a pas d'emphase à faire sur un effet bel ami, etc. Il est quand même très en dessous de l'ITIH de François Fillon du premier tour 2017. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup d'élus qui se disaient Macron compatibles il y a 2 ans. Christian Estrosi à Nice, Moudenc à Toulouse, qui sont des grands-mères, qui avaient créé des clubs politiques pour pouvoir se fédérer à Emmanuel Macron par la suite et qui jettent l'éponge et qui reviennent au bercail et qui restent pleinement républicains, qui vont voter bel ami Wauquiez là aux prochaines élections européennes.
Et dont certains feront des élections, feront des listes avec les macroniens.
Mais c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire s'il y a le peuple de droite entre guillemets, dont on dit qu'il a 40% encore chez Emmanuel Macron, revient dans une famille d'origine. Si la droite revient dans son lit, c'est plus la même histoire pour Emmanuel Macron.
Jérôme Fourquet, tiens, pour trancher.
Non, mais je sais pas. Mais les personnes dont vous parlez ne s'étaient pas ralliées au moment de la présidentielle. C'était des prises de guerre pour la suite. Donc l'élargissement à droite a été un peu stoppé, même si quand même, on peut citer des gens comme Fabienne Keller, des jupéistes qui sont alliés. Donc aujourd'hui, il y a une partie de la gauche qui quand même a quitté le navire, mais a été remplacée par une partie d'électeurs jupéistes. Et donc ça fait que le socle continue de tenir, même si la composition a un peu bougé. Et Emmanuel Macron essaye, la grande histoire, c'est quand même essayer d'élargir sur le centre droit.
Et là, ça bute un peu.
Et de manière paradoxale, les violences des Gilets jaunes l'avaient aidé à cela. C'est-à-dire qu'une partie de l'électorat de droite, selon le réflexe du parti de l'ordre, s'était rallié à Emmanuel Macron à ce moment-là. Et maintenant que les choses se sont recalmées, c'est peut-être aussi ça qui explique la dynamique relative de M. Bellamy.
Allez, il nous reste très peu de temps. Zacharie, c'est à toi de jouer. Comme je sais que tu as l'habitude, tu sauras faire une question courte et on t'écoute.
Oui, donc là, Emmanuel Macron, bonsoir.
On t'entend pas, Zacharie, pouf pouf.
Pardon.
Allez, vas-y.
Donc Emmanuel Macron, grand débat pour cette deuxième année.
Alors, pardon, hein, Zacharie, mais vraiment, on n'entend pas ce que tu es en train de nous dire, sûrement le téléphone, mais je peux la lire parce que je l'ai sous les yeux, la question de Zacharie. Emmanuel Macron a-t-il été trop ambitieux pour sa première partie de mandat? Résultat, une grande partie de l'électorat est contre lui à la veille des européennes, donc, et avec les municipales qui approchent. Est-ce qu'il a été trop ambitieux? Est-ce qu'on peut dire ça, Roland Kayrol?
Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais qu'il a oublié une de ses promesses de campagne, qui était ce fameux « c'est notre projet, nous allons faire ensemble ». Je rappelais cette espèce d'ode permanente au corps intermédiaire, aux élus, aux citoyens. Et il les a complètement oubliés pendant 2 ans. C'est les Gilets jaunes qui l'ont obligé à s'en souvenir. Donc voilà, il y a là un changement, qui est une espèce de retour aux sources du macronisme. J'allais dire d'une certaine façon, heureusement qu'il a eu ce rappel à l'ordre, parce que sans quoi, en effet, on partait vers un pouvoir personnel à l'excès, jupitérien à l'excès, et avec « je fais tout seul ». Si vraiment on a un recadrage aujourd'hui, je dirais que c'est à observer avec soin. Je ne suis pas de ceux qui disent « faut y croire » parce qu'il le dit, mais c'est intéressant à suivre.
Jérôme Fourquet, pardon de vous donner à peine une minute pour répondre à ça, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui, du coup, 2 ans après, définir le macronisme ou redéfinir le macronisme? Celui qui part pour l'année suivante et l'an 3, qu'est-ce qu'on dit de cette définition de pouvoir?
Écoutez, c'est compliqué. Roland Kayrol a expliqué qu'il y avait sans doute un aggiornamento, mais il faudra voir si c'est suivi dans les faits. Maintenant, pour le reste, on a un certain nombre d'indications. Les grandes lignes qui ont été fixées, la réforme des retraites quand même. Et donc on voit que on est quand même sur une poursuite d'une système de réforme libérale et d'adaptation de notre économie, de notre modèle social, peut-être moins ambitieuse. Vous le disiez dans les propos de votre auditeur, que ce qu'il voulait faire au début, parce qu'il tient compte de la météo qui n'est pas favorable, mais on est quand même sur des fondamentaux qui n'ont pas énormément évolué quand même.
Voilà, ce qui nous donnera l'occasion de nous revoir sûrement maintes fois avant la fin de l'an 3. Merci beaucoup, merci à tous et pour vos nombreuses questions aussi. Portez-vous bien.